Bonsoir. Vous écoutez D'assonances en dissonance, votre émission mensuelle consacrée à la poésie contemporaine. Aujourd'hui, je suis en présence et en compagnie du poète Thierry Perret-Marty, qui possède la double nationalité, française puisque née en France, mais aussi états-unienne puisque vivant depuis plusieurs décennies en Amérique. Alors tout d'abord Thierry, bonsoir. Et merci d'avoir accepté le principe de cet entretien. Pour vous présenter rapidement, je dirais que vous êtes l'auteur d'une quinzaine de recueils de poèmes écrits entre 1976 et 1992 et que vous êtes revenu à la poésie vers 2018. Vous êtes né en 1957, vous avez collaboré en tant que chroniqueur à la revue de poésie Décharge de 1986 à 1992. Et puis vous avez été journaliste musical d'abord à New York, puis à Los Angeles et enfin Dallas pour des périodiques français et américains pendant plus de 30 ans. En 2009 sortait aux éditions Le Mot et le Reste un ouvrage intitulé « Visiting Jazz » qui regroupait les portraits intimes d'une centaine de musiciens. Et depuis 2018 sont parus plusieurs recueils aux éditions Gros Texte, aux éditions À Bordeaux, aux éditions La Tête à l'envers, aux éditions Floem et aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune. Thierry Perret-Marty, on peut dire que voilà un itinéraire de vie peu banal et que l'on devine riche de rencontres et d'émotions. Et pour terminer cette présentation, vous dire aussi, chers auditeurs, que vous pouvez en savoir plus en allant visiter le site de Thierry Perret-Marty. Et le site, vous le trouvez en cliquant sur thierryperretmarty.com. Donc, j'appelle en minuscule thierryperremarty.com. Et vous tombez donc sur le site web du poète Thierry Perret-Marty. La première question, ce serait, dites-nous comment tout cela a commencé. Avez-vous été initié à la musique ou à la poésie quand vous étiez enfant?
Non, pas du tout. Je ne peux pas dire que j'ai été initié à la musique et à la poésie. La poésie, je pense que je l'ai rencontrée en 1968, lors d'une discussion dont j'étais le témoin. C'est une discussion entre mon père et ma sœur, qui faisait des études de littérature à l'époque, et je me souviens, je n'écoutais pas vraiment ce qu'il disait, mais à un moment donné, j'ai entendu les mots « La terre est bleue comme une orange ». Et ça a été un déclic extraordinaire. Je n'ai pas compris d'ailleurs de quoi le déclic et ce qui allait se passer, mais c'était d'une clarté, d'une vision incroyable. Je savais que tout était là, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire. Donc ça, c'était pour la poésie, mais j'écrivais à l'école, comme on écrit tous, des rédactions, etc. Ça me plaisait beaucoup. Pour la musique, j'ai eu un père qui était musicien. Pendant des années, il était batteur de jazz. Mais on n'écoutait pas, il n'y avait pas de disque à la maison. Mon père, une fois qu'il a fini avec la musique, ça a été donc plié. Et donc, en conséquence, je n'ai pas vraiment d'éducation musicale. J'ai fait du piano, comme tous les enfants, pendant 3 ou 4 ans, et puis ça a été tout, voilà. Donc on ne peut pas dire que vraiment je suis tombé dans la musique plus tard. Ce n'est pas venu vraiment de mon enfance et pour la poésie, c'est à déterminer.
Assez jeune, vous partez aux États-Unis. La langue anglaise, vous la possédiez déjà en arrivant à New York et vous considérez-vous bilingue puisque, évidemment, j'imagine que dans votre vie, c'est l'anglais que vous avez le plus parlé au bout du compte.
Oui, je pense que en partant, lorsque j'ai quitté Paris pour habiter à New York, je parlais quand même anglais, je me débrouillais. C'est venu par la suite beaucoup plus facilement et en travaillant surtout, en faisant des jobs divers et en travaillant avec des gens qui venaient de boroughs, comme on dit à New York, enfin, j'ai pu apprendre l'américain comme on le parle. Mais bilingue, oui, bien sûr, vous avez raison, j'ai passé plus d'années à parler l'anglais finalement que le français, ce qui est assez curieux. Donc oui, bilingue, je dirais encore heureux.
Alors si je pose cette question, c'est parce que les articles, certainement vous les écrivez en anglais aussi, mais la poésie, vous l'écrivez toujours en français, que je sache. Alors, peut-être vous allez nous expliquer pourquoi.
Oui, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Lorsque j'ai commencé à écrire, il faut dire que j'ai arrêté d'écrire pendant 20 ans, de 1995 à 2015. Donc j'écrivais en français au tout début, lorsque j'étais adolescent et jusqu'à l'âge de 32 ans ou quelque chose comme ça. Et j'écrivais donc en français. Lorsque je me suis retrouvé aux États-Unis, j'écrivais toujours en français. Et puis, on pourrait parler, si vous voulez, par la suite, la raison pour laquelle j'ai arrêté d'écrire. Et quand je suis revenu à la poésie, ça a été pour moi vraiment un retour à la langue maternelle, vraiment quelque chose, je voulais exprimer quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus important pour moi à cette époque, et donc j'aurais pu très bien l'exprimer en anglais, mais je pense que j'aurais jamais pu atteindre ce que je visais. Donc le calcul a été rapidement fait, il fallait que je retrouve mon français, et que je lise, d'ailleurs que je fasse un effort de lecture, et donc d'écriture, et je suis vraiment, il y avait que le français, il n'y avait pas d'autre choix que celui-là. Et je ne changerai pas. Je pense que si j'avais écrit en anglais, pour moi l'anglais, j'allais dire, c'est une langue apprise. C'est-à-dire, il y a un apprentissage de la langue, et c'est une langue de surface. Alors on peut être très bien bilingue avec une langue de surface, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aller en dessous de cette surface, et donc de retrouver des mots vraiment qui avaient un sens vraiment beaucoup plus profond que les mots que j'ai appris par la suite dans une autre langue. Voilà l'explication.
Après, pourquoi le français? Pourquoi le jazz? Comment démarre-t-on une carrière de journaliste à New York? Quel personnage y croise-t-on? Quelle relation on entretient avec les musiciens, qu'elles soient professionnelles ou amicales?
Le jazz, c'est par l'intermédiaire. J'ai fait une rencontre un jour qui était très importante. C'est celle que j'ai eue avec Michel Petrucciani. Et c'est en fait le premier article que j'ai écrit. Et j'étais censé, lorsque j'ai quitté Paris, d'écrire pour un magazine de culture, et où on m'avait dit, par exemple, d'envoyer de temps à autre quelque chose qui m'intéressait. J'avais une carte blanche. Et donc je cherchais vraiment ce qui pouvait vraiment être un peu différent. Et un jour, j'écoutais Michel Petrucciani à la radio, et je le connaissais, j'avais vu en concert, bien entendu, mais j'ai trouvé le personnage très intéressant. Je me suis dit, puisqu'il se passe autant de choses autour de lui à cette époque-là, je vais en faire mon sujet. Et donc je suis allé le trouver, je suis allé l'écouter, et je lui ai proposé cette interview, et à la suite de cette interview, on est devenus amis. Et c'est une amitié qui a duré plusieurs années jusqu'à sa mort. Et donc, je dirais, c'est grâce à lui que je suis tombé dans le jazz. Et c'est aussi de sa faute, dans un sens. Bon, ce que j'ai fait, c'est que le choix, l'idée, elle n'est pas de moi. L'idée, elle était donnée par la personne avec qui j'habitais à l'époque et qui m'a dit, mais pourquoi tu n'envoies pas cet article à un magazine de jazz? En fait, je savais plus ou moins les écrire sans le savoir, parce que j'avais lu tous ces magazines étant beaucoup plus jeune. Et donc j'ai envoyé le même article à deux magazines mensuels concurrents. Et il y en a un, je crois, qui avait perdu mon article, et le deuxième qui l'a reçu. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil, 15 jours après, qui m'a dit, non seulement on prend votre article, on en fait la couverture du mois d'avril, si je me souviens bien. Donc le premier article que j'ai fait, ça a été Car Story, comme on dit. Et en plus, il voulait un correspondant sur place à New York, parce que le correspondant d'avant n'était plus là. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé correspondant de jazz pour ce magazine, et ça a duré 33 ans. Enfin, en changeant de magazine, bien entendu, il n'y en a pas eu qu'un. Et voilà l'explication.
Si vous le permettez, Thierry Perret-Marty, on va quand même dire deux mots sur Michel Petrucciani. Dire d'abord qu'il est né en 1962 dans le sud de la France, dans le Vaucluse, et qu'il est mort donc à Manhattan en 1999. C'est un pianiste et compositeur de jazz français, et puisque notre radio diffuse depuis la région PACA, depuis Grasse, dire que le père de Michel Petrucciani, Antoine, dit Tony, était lui-même un musicien et un professeur de musique, qu'il a donné des cours de guitare jazz dans des écoles municipales de musique à Carnoules, à Solliès-Toucas, au Luc-en-Provence, à la Londe des Morts. Ça, c'est dans le département du Var. Donc voilà un clin d'œil. Les deux frères de Michel Petrucciani sont également musicien, contrebassiste et guitariste. Et puis, un clin d'œil aux Indiens d'Amérique, la première épouse de Michel Petrucciani était une Indienne Navajo. Un grand, grand musicien, non pas par la taille, mais par le talent, Michel Petrucciani. Alors maintenant, on va en venir vraiment à notre sujet qui est la poésie. Et pour commencer, je vais lire ce que Claude Pélieux vous écrivait en guise de post-scriptum, en rappelant que Claude Pélieux était un poète prolixe et plasticien français né en 1934 et disparu en 2002, qui avait épousé l'artiste Mary Beach et qui avait vécu aux États-Unis depuis l'âge de ses 30 ans. Alors il avait fréquenté à peu près tous les auteurs de la Beat Generation et il les avait, pour certains, traduits en français. Alors Claude Pélieux, à l'occasion de la sortie de votre livre paru aux éditions Revidiage en 1991, intitulé « Claquer au vent », écrivait ceci « Far from the edge », qui se traduit par « Loin du bord ». Et donc je cite quelques extraits. A poème, écrit entre 1985 et 1989, avec du ciel plein la gueule, cerné par les robots, les clodos, les chilames dans la jungle, où règne la pire violence alors que tout l'espace s'ouvre, les portes de la libido se referment, le silence se rebiffe, le ringard aussi. Écrire, deux points. Ultime règlement de compte, prélude à quelques hostilités, l'adoration du clone, sidatique, le sensusoir sur le reposoir, autrefois ou communément, il y a longtemps, la vie. La poésie n'existe pas, tout s'en va au pilon, salami de poésie. Et c'est tant mieux, le poète brandit sa tronçonneuse et disparaît dans l'hyperespace. J'habitais alors à Brooklyn, dans l'inconscient des autres, survivant dans l'anorexie mentale. Un coup de moulinex dans la mercerie art et lettres, et on se pète le cul à prendre en charge cette Auschwitz intellectuelle au point qu'on s'en fait mourir devant l'écran de télé HD. Poème telex, monologue, fax d'images, coma de mots, un langage suspendu. Thierry Perret-Marty écrit des scripts qui vont se perdre à l'horizon. Bon alors, cette citation tout d'abord, bon, pour la jubilation de donner aux auditeurs un aperçu du style et de l'état d'esprit de ce fameux Claude Pélieux, cette morgue, ce mordant, cette critique, cette ironie, et qui savait se pencher et s'intéresser à des auteurs très différents. En quoi consistait donc ce recueil dont le titre « Claquer au vent » évoque à la fois la rage, la rapidité, l'explosivité, mais aussi la disparition?
Justement, Béatrice, j'ai du mal à m'en souvenir. Il est parti, il est claqué au vent. Et puis Claude le dit très bien, c'est les scripts a disparu aussi. C'est un livre de 1991, alors pardonnez-moi, ça fait quand même quelques années. C'était certainement quelque chose de très américain, j'allais dire, très New York, très tout ce que j'ai écrit dans ces années-là, de 83 déjà, 82, 83 jusqu'à 92, c'est tout à fait, c'est une toute autre écriture. Je crois que ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais depuis 2015. C'est peut-être des textes vraiment urbains, je dirais, c'est pas du tout, j'ai jamais été avec les petits oiseaux et les cailloux sur le chemin, c'est pas du tout mon genre. Claude, je me souviens, l'avait aimé. Et pour dire, je me souviens bien de Claude parce que déjà, je lui avais envoyé, je lui avais adressé, j'habite encore à Paris, je lui avais adressé une petite parution que j'avais réalisée qui s'appelait La nuit bille en tête. C'était le résultat d'un voyage que j'avais fait pendant quelques mois aux États-Unis où chaque poème était une image, un souvenir, quelque chose de très précis, un lieu différent. À chaque fois, on passe d'une ville, d'un état, parce que j'étais vraiment allé partout. Et Claude je l'avais envoyé depuis Paris, il avait beaucoup aimé ce recueil et c'est comme ça qu'on est rentré en contact tous les deux. Et quelques temps après, je lui ai dit que je venais habiter New York et il m'a dit, il faut absolument qu'on se voit. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le rencontrer. Oui, il fallait absolument que je le rencontre. C'était dans cette légendaire librairie qui s'appelait Gotham Bookmart. C'est l'endroit où vraiment, depuis 1920, tous les grands écrivains américains se retrouvaient. La liste serait énorme, c'est incroyable. Et donc j'ai vu Claude pour la première fois, J'allais dire, en vrai, il était là, je me souviens, il était de dos, il regardait quelques livres dans un rayon et j'ai pas pu l'aborder. Je voyais ce grand gaillard et je me suis dit, ça y est, c'est Claude Pélieux. Je lisais, moi j'étais au lycée, hein, j'étais gamin, j'avais 16-17 ans déjà. C'était une rencontre incroyable et on avait fini la soirée, d'ailleurs, dans un endroit aussi légendaire, c'était le restaurant qui est juste à côté de l'hôtel Chelsea, où il avait habité, le Don Quichotte, où il avait habité à une époque. Et là, Mary Beach était là aussi et il m'a raconté sa vie lors d'un dîner. Et je lui ai dit, mais il faut absolument d'ailleurs que j'écrive la biographie de Claude Pélieux. Il m'a interdit de le faire. Il m'a dit, on fera jamais ça. Mais on est devenus amis. Et c'est une amitié qui a duré aussi des années, avec une correspondance très touffue. Je crois que j'ai des centaines de cartes postales, il écrivait tous les jours, et des lettres. C'est vraiment quelqu'un de... C'est un personnage vraiment à part, unique. Hein. Je n'ai rencontré personne comme lui. Donc voilà, et c'est ce qu'il a trouvé à dire sur claquer au vent. Et je ne peux pas en dire grand-chose d'autre, c'est claquer au vent, c'est parti. Je suis un peu désolé, Béatrice.
Non, non, mais c'est bien à l'image d'une époque, de New York, voilà. Est-ce que vous nous feriez l'honneur et l'avantage de nous lire quelques extraits de quelques poèmes ? Alors, ceux que vous avez envie de partager avec les auditeurs, pour qu'ils entendent et se rendent compte de votre univers poétique, mais si j'ai bien compris, il y a quand même une rupture, et 2015 inaugure un autre ton. Alors peut-être plus méditatif, même métaphysique par moment.
Un extrait de Nuits en nous, nous n'avons plus, c'est publié aux éditions Douro. Ainsi, la désarmance a pris en bouche à quelque chose près. Nous revenions de loin, chair blottie au beau milieu. Fallait-il devenir ce feu amoncelé, ces morceaux de rêve, dépasser ce que nous disaient les mères ? Je nous voulais coutumiers. Dévotieux au nous d'antan, tu me tueras au grand jour, nous serons quittes. Il faut enterrer la bave des bêtes, brûler la neige, becs et ongles, touffeur d'entre-cuisses, perler la sueur. Il faut redevenir remous, tumulte, nasse excavée, noce dépecée peut-être, comme dépouille au suspens, pendue d'amour, exsudée. Vois-tu, belle est la vie. Je disparus. Ne rendit que miettes, poudrin de vagues, bout de lueur mu par les mots perdus, belle affaire engloutie sous les murmures. Alors nous comptions les portes qui nous séparaient de l'abîme, pressentions le creuset d'un autre partage. Il aurait fallu longtemps marcher bien après la fin du monde.
Alors, merci pour ces extraits, dont je rappelle le titre du recueil, « De nuit en nous, nous n'avons plus ». Un ouvrage paru en 2023 aux éditions Douro, dans une collection dirigée par Muriel Compère de Marcy. Il faut dire aussi que c'est un texte accompagné par les dessins, les aquarelles de Corinne Pagny. Et ce titre laisse supposer que désormais, le sombre est chassé. De nuit, en nous, nous n'avons plus. Tout est flamme, tout est feu, tout est brûlure dans cette expérience de l'amour. Un amour que nous devinons au final être amour avant tout de la vie, avec la soif et la faim que nous en avons, avec sa dimension spirituelle d'ouverture aussi. Alors je me demande quelle place ce livre a pour vous dans votre production. Est-ce qu'il fait figure d'une sorte de bilan ? Est-ce que vous y présentez comme une forme de relation au monde, à la vie ?
Il s'agit, me semble-t-il, du mélange d'un vécu vrai, d'un soi-disant vécu et d'un vécu peut-être imaginaire. Il est question là de souvenirs, de ceux qui s'imposent et peut-être de ceux aussi qu'on déforme, qu'on invente. Enfin, on recrée une certaine réalité. Et bien sûr, je gardais en tête Aurélia de Gérandovel. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est mon Aurélia. Parce qu'il est aussi question d'un double dans ce texte. Et on sait que c'est un peu l'obsession qu'avait... Gérard, ce cher Gérard et son double. Donc voilà, c'est le rêve et la vie, quoi. C'est un peu ce qui me préoccupait à l'époque. Et il est question d'amour, tu as absolument raison, Béatrice. Je suis en fait assez, toujours aussi fasciné d'ailleurs par le ressouvenir. En fait, je m'aperçois que depuis des années, j'écris sur le ressouvenir. Et ce que l'on aurait voulu qu'il se passe, ce qui n'a pas été ou ce qui n'est pas conforme à un désir. Et donc, toutes ces choses-là, j'imagine le futur, bien entendu, mais je ne suis pas tourné vers le passé tout le temps. C'est une quête où on replonge, en fait, on se retourne, on regarde derrière soi, justement, pour mieux avancer. Je pense que ça qualifie pas mal de choses que j'ai publiées ces derniers temps.
Et dans ces ressouvenirs, est-ce que la question « et si » revient ou bien pas ? C'est-à-dire, et si la voiture n'était pas passée à 14h30 et si...
Oui, bien sûr. Moi, j'ai tendance à voir des signes un peu partout. J'ai l'impression qu'on a des indications toute notre vie. On a des signes, on les voit ou on ne veut pas les voir, ou des fois on ne les voit pas du tout. Enfin. Mais je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent, et c'est aussi une dimension qui m'intéresse, un peu plus ésotérique, bien entendu, un peu plus métaphysique ou autre. Et les choses se passent pour une raison... bien sûr, on en est absolument responsable, mais ce sont des choix. On en parlait tout à l'heure de la raison pour laquelle je suis parti aux États-Unis. C'est une question de circonstances, c'est tout. Il y a les choses que l'on veut, on les pousse, on les obtient en les poussant, bien entendu. Puis il y a celles qui vous tombent dessus et qu'il faut savoir attraper. Puis il y a celles qu'on n'attrape jamais. Et des fois, il vaut mieux, pour certaines, de ne pas les attraper. Mais c'est tout ce magma qui m'intéresse de la vie, en fait. Je crois que les poètes doivent être... ce chemin-là, d'ailleurs, je le fais, je suis absolument ni le premier à le faire et certainement pas le dernier. Il faut toujours, je pense, regarder ses traces où on marche, où on a marché, regarder devant soi. Et c'est important. C'est aussi ce que j'ai fait pour Terre Lingua, en marchant dans le désert, parce que justement le désert vous renvoie à vous-même et c'est par la marche et par l'observation de ce qu'il y a autour que l'on peut vraiment peut-être comprendre qui l'on est. En tout cas, on espère être cette personne que l'on imagine.
Alors merci de parler de ce Terra Lingua, parce que c'est exactement le recueil sur lequel je voulais qu'on se penche. Terra Lingua, nous dit le site des éditions Floem, qui est donc la maison d'édition qui a publié votre livre, Thierry Perret-Marty. Terra Lingua est une ancienne bourgade minière, une ville fantôme au sud du Texas, dans le désert de Chihuahua, proche du Rio Grande, et ce Rio Grande fait office de frontière avec le Mexique. Une légende locale voudrait que le créateur ait déposé là l'excédent de gravats après avoir créé le monde. Donc autant dire que c'est un peu glauque, ce paysage de Terra Lingua. Et toujours sur le site de Floem, ce commentaire: cette région inhospitalière, perdue et loin de tout, autrefois terre apache et comanche, pourrait bien aider à retrouver le chemin qui mène à soi, ce qui voudrait donc sous-entendre que cette marche dans le désert de Chihuahua et au Texas est une marche initiatique. Je vais ouvrir une parenthèse pour parler un petit peu des éditions Floem, qui sont donc des éditions animées par Lara Dopf. Et cette jeune femme conçoit le livre de bout en bout. Donc elle sélectionne les manuscrits, mais la fabrication des livres se fait à la main. Et ce sont donc des jolis objets artisanaux. Floem, c'est l'équivalent grec de du liber latin, c'est-à-dire donc c'est l'écorce. Donc voilà pour les éditions Floem, et on va revenir à Terra Lingua. Si je comprends un peu ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que le temps passe, vos recueils, de plus en plus, sont comme des tentatives de dire des expériences initiatiques, d'éclaircir certaines questions existentielles qui sont comme des jalons de votre parcours de vie et un parcours de vie en poésie. Est-ce que vous pourriez dire que la marche au sens propre et concret comme au sens figuré ou métaphorique, ce que la marche représente et vous apporte?
Oui, ça c'est une question intéressante, parce que la marche physique, je la pratique pas beaucoup en fait. Enfin, je me force à marcher parce que mon docteur me dit qu'il faut que je le fasse et je ne peux pas rester devant mon ordinateur toute la journée. C'est intéressant parce qu'en fait, je m'aperçois que dans pas mal de textes, je conjugue le verbe marcher, je marchais ou je marche, et en fait, il y a une démarche. Pour moi, elle est d'un point à l'autre. Comme dans l'écriture, on va d'un point à un autre, on avance, on essaie d'y voir plus clair. Donc, c'est plutôt cette marche métaphysique qui m'importe, plus que celle qui est physique. Hein. Quoi dire d'autre sur ce sujet? Il y a tellement de poètes qui sont marcheurs dans les deux sens, qui m'ont fasciné, de vrais marcheurs. Moi, je suis quelqu'un qui marche dans sa tête, plus que si tu veux, sur la route. Enfin, pour Terlingua, j'ai fait cet effort d'aller à la découverte de moi-même. Le désert, il vous renvoie à vous-même. C'est incroyable, il n'y a rien. Vous pouvez crier, il y a un écho, ça vous revient à la figure. Et en fait, c'est exactement ce que le désert vous fait. Il vous lamine et vous fait... Vous pouvez mourir dans le désert, vous savez. Il y a une marche que j'ai faite, un autre voyage avec mon fils, où on avait fait d'ailleurs l'erreur de ne pas avoir assez d'eau avec nous. Et bon, il faisait très chaud, on s'en est tiré. Hein, la voiture n'était pas très loin, à quelques kilomètres quand même. Enfin, le désert, c'est un danger en permanence. Et c'est en fait ça qui m'intéressait, hein, c'est dans cette plénitude sauvage, en fait, tout peut arriver. Autant un éblouissement, une conquête de soi, autant la mort. Donc c'est formidable, dans un sens.
J'ai sélectionné un tout petit passage de ce recueil. Vous allez le lire vous-même.
Mûri des ruines au refuge dernier, dans ce lieu, tout est bien qui respire. Tout ce qui manquait au corps même se révèle. Ce qui incombe à l'absolu t'invite aux ruptures.
Donc le poète marche dans la matière, dans les eaux, dans la terre rouge. Il marche en lui-même, dans le nu, dans son érosion, dans l'usure. Il s'ouvre. Les terres pillées aux douleurs accomplies. Alors les terres pillées, donc moi, pour moi ça renvoie tout de suite aux Indiens. Hein. Terres pillées aux Apaches, aux Comanches. Les douleurs accomplies, les astres aujourd'hui n'y poussent plus. Et dans ce livre est suggéré que cette région inhospitalière, perdue et loin de tout, autrefois donc terre Apache et Comanche, pourrait bien aider à retrouver ce chemin qui mène à soi. Je rappelle aux auditeurs que vous écoutez D'assonances en dissonance, l'émission consacrée à la poésie contemporaine mensuelle, et que je suis en compagnie du poète franco-américain Thierry Pérémarty. Nous parlons de son livre intitulé Terlingua, publié aux éditions Floem, et je vais lire quelques extraits de ce livre au fil des pages. Voici la page 19. Un autre versant où s'éclairer, un autre gravir, attisant le souffle. Viendront l'orage, la tempête de sable grêler ta solitude. L'air, sur le point de devenir insaisissable, prends-tu appui sur l'immobile et ce qui sommeille? La surveillance des buses pour témoin, le désert poncera ton âme. On passe à la page 22. Et l'heure éparse et inaudible, où jouit-elle? Qui élucide tous les gestes, devine ce qui reste à fendre, à étirer? Tu es loin de la horde, des cacophonies. Au-dessus de ton front divaguent les nuages, rien d'utile autour de toi, aucun profit possible. Le silence t'écoute, témoigne de ton existence au détour de mouches par milliers, d'une charogne putride. Page 25 maintenant. Que reste-t-il qui ne fut redonné? Immiscé dans le temps qui compte, blotti, inondé d'un soleil levant, tu dévisages l'infini, loin, seul, parti. Demeure la clarté foudroyée de l'aurore, la lueur, l'exigence du lieu, duretés et nudités qui te mesurent. Tu te parles, et c'est la nuit qui répond, éclaboussante, ce qui prit feu en toi, s'irise, couve, un lumineux torrent. D'une pelletée de sable, tu es l'égal. Enfin. Donc là, on aborde un petit peu cette ambiance minérale du milieu désertique. Page 28. Tu n'écriras pas l'univers, le point de ralliement, mais l'efflorescence. Et page 30. Midi à pleine voix, bien haut, la barque, la berge, l'autre rive. Habiter cette confluence, Boquillas del Carmen, au seuil, à l'orbe du monde, et talisman au cou. Je ne tiens qu'à un fil, au hasard d'une rencontre, une agave, un créosotier, une poignée de chardon. Mon nom est inscrit dans l'eau, je ne vis que dans l'écart creusé, infléchi, à la portée d'une cime inapprochable. Page 32. À ciel béant, la route, très loin dessinée, inhabitée, informulée, dont je suis la trame, insignifiant, chaque mot justement au biseau, à même le roc, promis au limon, à la surgie des pluies. Pourquoi tant d'ingratitude alors que je marche docile, louant l'ébrasement de tous les silences, impassible désert. Page 38. Faire brèche dans le faux dormant des broussailles, sans que rien ne fasse signe et n'appelle, et qui subsiste, brille, reste à franchir, seul. Substrat de vie, où laisser trace, strident désert des labors de l'air, n'en finissant de me divulguer. N'aurais-je pas cherché la pierre d'angle, ayant prêté serment, vivant sans témoin, sans les mots qui comptent ? Puis ce dernier extrait, page 43. Déflagré, ailleurs, dans le lisible du ciel, sans plus de point de mire, l'azur à bout portant, la route donne et reprend, défile lave et calcaire. Hors d'atteinte, suis-je dorénavant invisible ? Parole apache en tête, lancinante, et l'air qui affame la pierre et ce qui prie la pluie. Ce soir, dans la dispersion des étoiles, je m'endors, l'extrémité du silence, où tout recommence. Voilà, c'était pour donner le ton et l'ambiance de ce livre, intitulé Terre Lingua, édité aux éditions Flouem et écrit par mon invité Thierry Perret-Marty. Il est de coutume dans notre émission, Thierry Perret-Marty, de passer un morceau de musique ou une chanson. Et nous allons écouter votre ami Michel Petrucciani au piano sur un morceau de Colors. C'est un morceau qui a été enregistré en juillet 1998, et c'était quelques mois avant de s'éteindre à l'âge de 36 ans, des suites d'une pneumonie aiguë foudroyante. Voici Michel Petrucciani, Colors. Thank you. D'entendre Michel Petrucciani au piano jouer Colors, et c'était un hommage à l'ami de mon invité Thierry Perret-Marty. Et avec lui, nous nous déplaçons vers l'univers américain avec tous ses contrastes et ses paradoxes. Alors j'aimerais savoir, bon, parce que il y a toujours un moment d'adaptation, en tout cas pour moi. Quand j'arrive aux États-Unis, à peine débarqué de l'aéroport sur le tarmac, le brouhaha et le niveau sonore est augmenté au moins par 10. Donc il y a toutes ces choses-là. On se dit, ah oui, ça y est, je suis aux États-Unis. Est-ce qu'on revient de Dallas et qu'on arrive en France, est-ce qu'il y a cette expérience un petit peu et comment on assume cette double nationalité? Est-ce que vous boitez, Thierry Perret-Marty, avec une jambe américaine, une jambe française? Est-ce que vous êtes schizé? Vous avez deux parties en vous-même? Et est-ce que cela nourrit aussi votre poésie?
Non, mon double dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas à ce niveau-là. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a quelques années, il m'a dit, mais tu es expatrié. Et j'ai dit, non, je ne suis pas expatrié, moi j'ai deux patries. La notion d'expatriation, je n'ai jamais vraiment subi ou cru en elle. Non, j'ai deux patries. Je suis, c'est intéressant comme question parce que en fait, on a deux personnalités. À partir du moment où on s'exprime dans un langage, on n'a pas forcément les mêmes idées qui vous viennent en tête. Le langage, d'ailleurs, fait en sorte que le tri que vous faites avec les mots est différent avec l'autre langue que vous pouvez parler. Donc c'est intéressant, mais bon, je suis pas. J'essaye de rester moi-même autant quand je suis en France que quand je suis aux États-Unis. Je me sens pas vraiment séparé en deux. C'est pas, on peut passer de l'un à l'autre facilement, de plus en plus d'ailleurs, et je crois que les choses se rétrécissent entre les deux pays. Il y a 40 ans, il y avait une énorme différence. Maintenant, il y en a encore, bien sûr, mais de moins en moins, puisqu'on parle maintenant d'ouvrir le dimanche, et au 1er mai, oui. Mais bon, moi, je suis très heureux d'avoir deux cultures. Je trouve que c'est un enrichissement incroyable. Il y en a qui en ont trois ou quatre. Je trouve ça formidable aussi. Parce que ça vous permet de vraiment de comprendre finalement mieux le monde. Quand j'entends du mal être dit sur les États-Unis, ça me fait mal au cœur parce que moi-même, je suis très critique autant envers les deux nations, mais je connais le pour et le contre. Et quand j'entends les Américains, par exemple, se moquer de la France pour tel et tel aspect, ça me fait mal aussi parce qu'ils ne connaissent pas le pays, en fait. Bon, les choses sont peut-être beaucoup plus compliquées en France qu'elles sont aux États-Unis. C'est ça qui me marque à chaque fois que je viens. C'est-à-dire que je pense que c'est difficile ça me serait difficile d'y vivre tous les jours. Parce que je deviendrais très impatient rapidement. Les choses étant beaucoup plus, je dirais, entre guillemets, libres. Surtout quand on vient du Texas, les gens s'imaginent que, puisque c'est une terre gouvernée par les républicains, donc c'est la répression. C'est tout à fait faux. Je veux dire, Les républicains font suffisamment de mal que... Je ne vais pas parler vraiment de ça, mais je veux dire, il n'y a pas les mêmes lois, les mêmes interdits que l'on trouve en France, les mêmes... presque les menaces que je vois des fois dans la société française. Il y a toujours un panneau pour vous dire, non seulement c'est interdit de faire ça, mais il va se passer ceci si vous... Ça, je n'ai pas l'habitude de le voir aux États-Unis. Je suis assez choqué par ça. Et oui, par exemple, vous prenez de l'essence et puis l'appareil qui distribue l'essence, c'est marqué que vous ne pouvez pas prendre plus de ou moins de 3 litres, je sais pas. Enfin, la première fois que j'ai vu ça, j'ai pas compris. Il y a plein de choses comme ça. Je pourrais en donner des dizaines et dizaines d'exemples. Je ne les vois plus d'ailleurs. Si je passe un mois en France, au bout d'un mois, je commence à m'y habituer. Mais venant des États-Unis, c'est difficile. J'aimerais savoir d'ailleurs en quoi, enfin, ce qui pourrait choquer les gens lorsqu'ils viennent aux États-Unis, venant de France, il doit y en avoir. Cela dit, bon. Oui, le Texas, c'est particulier. Dallas, c'est une ville énorme. On est choqué par la taille des drapeaux dès qu'on sort de l'aéroport. Les drapeaux font 100 mètres carrés ou je sais pas quoi. Enfin, c'est une autre dimension. C'est une terre immense. C'est un ciel immense. C'est un État, par exemple, qui fait... Vous pouvez rouler pendant 10 heures au Texas et vous êtes toujours au Texas. On a du mal à s'imaginer ça. Et je pense que ça joue dans la tête aussi des gens. Il y a un sentiment de... Je dirais de liberté, finalement, d'abandon, c'est de laisser faire. Par exemple, on n'a pas de caméra lorsque vous traversez un carrefour, un feu rouge, c'est-à-dire que tout est permis. Et on voit de tout, d'ailleurs. Il n'y a pas de répression. Cela dit, bon, je pense que le Texas est en train de changer, les États-Unis vont changer. Je suis très optimiste, finalement, dans la situation de ce qui se passe. Et je crois qu'il y aura un retour de manivelle, un retour de bâton. Et je crois que les démocrates, un jour, auront... On va sauver cette République, on va revenir aux institutions, revenir à l'état de droit. Je crois vraiment en l'Américain. Ça va surprendre des Français d'entendre ça, mais je crois que c'est un peuple intéressant et c'est des gens qui peuvent être soudés. C'est une société complètement clivée en ce moment, mais c'est un peuple qui peut se retrouver rapidement et qui peut, pour le meilleur, pour le mieux, finalement, se sauver de terribles catastrophes. Et on le voit, et même au niveau de l'économie. En règle générale, on rebondit plus rapidement que les autres et on se tire d'affaires plus ou moins. Enfin, il faudrait parler en détail de quelle société on parle, mais je suis très, plus qu'ennuyé par ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment endolori même, je dirais, et tous les jours, et de plus en plus. Mais je suis assez optimiste, je crois qu'on s'en tirera.
Après oui, rebondir, relancer... Les démocrates, bon, moi j'ai toujours un petit peu le bémol qui est quid de l'environnement. On va revenir à ce qui nous préoccupe en priorité, c'est-à-dire l'écriture, Thierry Paris-Marty, donc sans quitter complètement cet environnement franco-américain. Et j'aimerais que nous parlions, non pas technique, mais... que nous pénétrions peut-être un petit peu plus dans les coulisses de l'écriture. Comment procédez-vous pour arriver au poème ? Est-ce que vous noircissez des carnets de notes ? Ou bien vous avez une écriture plutôt spontanée, sur laquelle vous revenez peu ? Est-ce que vous lisez à voix haute vos textes pour vous rendre compte si vous êtes arrivé à la bonne formule ? Racontez-nous un peu la cuisine.
J'écris, je dirais... très lentement, finalement, et de manière la plus précise possible. Il faut que ça soit concis. J'ai horreur du verbiage, j'ai horreur des phrases qui n'en finissent pas ou des vers qui n'en finissent pas. Je crois que chez les auteurs qui comptent, enfin, qui ont compté pour moi, ce sont des gens qui sont allés dans la direction qui m'intéresse. C'est une question de précision. Et... Alors, j'écris donc lentement, je corrige énormément, et je peux mettre 3 ou 4 jours pour écrire 70 mots. Si un texte fait 70 mots, ce qui est terrible, c'est que je ne peux pas écrire un autre texte sans avoir fini celui que je suis en train de travailler. Et donc, je ne peux pas tourner la page. Tandis au bout d'un moment, si je ne suis pas content et si j'estime que j'ai rencontré le mur, eh bien, j'arrête, bien entendu, parce que j'ai appris avec l'âge et un peu quelques années de pratique que plus on s'acharne, en fait, vous savez, si la porte ne s'ouvre pas, la porte, elle ne s'ouvrira pas. Vous avez beau cogner sur cette porte, il n'y a rien derrière. Il faut savoir arrêter, mais je pense que C'est un effort et je pense que c'est pas douloureux, mais ce n'est pas très facile. Il y a des choses qui viennent rapidement, ça arrive encore, mais en règle générale, c'est un travail pas forcément facile. Ce que je publie en règle générale, je le publie dans l'ordre dans lequel c'est écrit, c'est chronologique. Lorsque vous prenez un livre, le premier texte du livre, c'est le premier que j'ai écrit, et le dernier, c'est le dernier. Je ne sais pas qui travaille comme ça, mais c'est-à-dire qu'il y a une progression. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression d'écrire des recueils. J'écris des livres, c'est des livres de poésie. Et je n'ai pas un arc et je ne fais pas, pratique pas le récit. Hein. Mais je crois que je vais dans une direction, je marche encore une fois. Et je m'acharne comme ça à faire un texte après l'autre. Et le livre est. Et je l'ai en tête déjà. J'ai souvent le titre avant de l'écrire. Ou en fait, disons, même rapidement, après avoir commencé, je sais que je veux exprimer certaines choses-là. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, je ne prends pas de notes. Je ne suis pas de ceux qui gribouillent dans un carnet qu'ils ont dans la poche. À la limite, j'utilise mon téléphone et je marque un mot ou deux mots. Et c'est une indication, c'est une idée, ça peut être une sensation, ça peut être une image. Et l'image entraînera beaucoup de choses. Et je fais confiance au texte. Je suis persuadé que c'est pas le poète qui écrit le poème, c'est le poème qui écrit le poète. Et je suis persuadé que ce petit jeu que nous pratiquons, c'est une question de retenue et c'est une question de laisser aller. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement lucide. J'essaie d'être lucide dans ce que je fais le plus possible. Et j'ai appris à laisser le texte courir et le rattraper. Parce que je suis justement contre le verbiage et contre ce qu'on pourrait étaler sur une page ou un écran d'ordinateur. C'est pour ça que il y a des textes longs que j'ai faits, un livre dont j'oublie moi-même le titre, qui fait deux fois 35, ce sont deux textes, il y a deux fois 35 pages. L'un, c'est un 35 pages de... C'est un seul texte, et l'autre, il y a 3, 4, 5 textes dedans, mais en fait, ils sont en continu aussi. Et lorsque j'ai écrit... Un jour plus loin dans le jour, je voulais absolument un canevas. Je m'étais, c'était le Covid, comme vous l'avez dit auparavant, donc c'était une époque un peu de contrainte, et je m'étais dit, c'est par la contrainte que je vais essayer de tirer le meilleur de cette époque. Et donc j'ai imaginé un canevas, il fallait que le poème soit compris entre 28 et 32 mots maximum, et on ne pouvait pas aller au-delà. Il y en a qui vont compter les mots pour savoir si je me suis... Toujours est-il qu'il fallait qu'il y ait un maximum de 5 strophes, et chaque strophe ne pouvait pas avoir plus de 3 vers. Trois phrases. Enfin, et c'est à l'intérieur de ça, justement, que ça, j'ai essayé d'atteindre encore plus de concision et d'aller vraiment assez profond. Enfin, il fallait que ce soit un langage assez direct, évocatif, bien entendu. Voilà comment je procède. Sinon, en ce moment, j'écris des dizains. Je me suis mis aux dizains, mais des dizains qui ne... Il n'y a pas là de rime, il n'y a pas de... J'ai pas le nombre de syllabes qu'il faut, bien entendu, je ne respecte pas la règle. Mais j'essaye de trouver une forme. Je crois qu'à chaque fois, je cherche une forme différente. Le message est plus ou moins le même, mais je crois que la forme est différente. Je ne veux pas me cantonner à une seule forme. Un jour ou l'autre, it runs out, je dirais. Elle s'épuise par elle-même. Il faut se renouveler. Mais c'est intéressant, vous savez, le poème, c'est... je trouve cette forme fantastique parce que vous n'êtes pas forcément maître de ce texte. Alors on en met, on en écrit, et on a fini son travail, on est content. Et en fait, le principal finalement n'est pas dit, on le découvre bien plus tard. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est savoir maîtriser tout ça et se laisser aller quand il le faut, tout en mettant... pareil pour la métaphore, j'ai souvent dit la métaphore, moi c'est... J'y mets un bracelet électronique, moi, la métaphore, pour pas qu'elle aille trop loin, parce que... Pourquoi la métaphore? Je dis pas qu'il n'en faut pas, mais on en fait peut-être un peu trop aussi. Il faut vérifier tout, il faut vérifier la syntaxe, le langage, bien entendu, le vocabulaire que vous employez, mais aussi le chant. Moi, je suis très proche par la musique, je suis très proche du chant, du rythme. Le rythme est essentiel. Alors, vous parliez de lire à voix haute, bien évidemment. C'est qu'il n'y a que comme ça qu'on sait que le texte est abouti. Et d'ailleurs, une fois qu'il a été écrit, on est content. Une fois qu'on le lit, on se dit, mais attends, il y a un truc là qui ne va pas. Il y a une fausse note là. Il faut récupérer ça, il faut le retravailler. Et puis il faut se méfier de soi. Je me méfie beaucoup de ce que j'écris. Parce qu'il y a des nuits où j'écris des choses qui me paraissent vraiment bien. Je suis très content. Je me suis dit, ah ben là, je suis arrivé. Et puis le lendemain matin, au café, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'a pris? Donc on recommence. Donc je recommence le texte, j'en enlève. En règle générale, le début, ça commence toujours très bien. Et puis ça se passe pas forcément comme je veux. Donc voilà, c'est comme ça que je...
Alors si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, Thierry Péri-Marty, il semblerait donc qu'il y ait deux enjeux dans cette écriture. C'est celui de la vérité à soi-même, qu'on a un petit peu développé en début d'émission, comme dévoilé, comme débrouillé et partagé avec les autres. Et puis donc, là, dans votre travail d'écriture, il y a aussi la tenue formelle du poème avec des contraintes. J'aimerais maintenant que vous lisiez un petit peu des extraits, par exemple celui-ci. Un extrait de « Bout portant », à vous Thierry.
Revenir au lignage, à la source, pour que le secret perdît son double, réfléchit soudain la lumière, l'enchevêtrement. Je voulais être bribe, fragment, glanure comme au premier jour, bout de moi fertile. Je ne suis que maille évidée, irrattrapable. Longuement, je mastique une promesse tête droite. Peut-être le fragment qui empêche vocifère le reste. Et ce qui sans nom s'avance, le pli, la rechute. Après tout, tu n'es ni toi ni l'autre. Yeux au plus haut front, tu survivais couché dans la vague terreuse, arraché aux nuits nouvelles. Ils vendent des ciels ouverts à demi, leur pesant de vertige, pour redevenir fièvre qui s'éveille. Toi, doucement comme feuille d'arbre tombe.
On se rend compte donc, à l'écoute et à la lecture de ces poèmes, qu'il y a une belle densité et qu'effectivement, ce n'est pas une poésie bavarde que vous écrivez, Thierry Péri-Marty. Alors, un mot comme glanure. Bon, on sait ce que c'est que les glanes, on sait ce que c'est que glaner. Glanure, on entend un petit peu quelque part comme raclure. Quelque chose d'un petit peu dévalué. Comment ça vous vient un mot comme ça? Et qu'est-ce que vous y mettez derrière?
Ben, c'est exactement ce que vous venez de dire. Mais comment ça me vient, je ne sais pas. Justement, dans ce retour à la langue française que j'étais bien obligé de faire pour écrire des choses un peu plus lourdes, je dirais, par rapport à l'anglais, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que la langue française est fantastique, il y a des mots qu'on n'utilise plus. Et d'ailleurs, on m'a dit, mais Péri-Marty, c'est un peu précieux, des fois. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais je veux dire, il y a des mots que l'on peut utiliser. Je suis très déçu qu'on ne les utilise plus, mais je crois qu'on les comprend. Glanure, on comprend tout à fait ce que c'est. Et j'aime bien, en fait, me permettre d'avoir une latitude, quelque chose de large. Je trouve que les gens, en règle générale, on se restreint dans un vocabulaire. Comme dans le parler de tous les jours. Et dans la poésie, je crois que on peut essayer de sortir de 750 mots que l'on emploie tout le temps.
Certes, le vocabulaire est riche et il y aurait plusieurs façons de dire que le temps passe très vite en votre compagnie, Thierry Péri-Marty. Dire que nous n'avons pas épuisé le questionnaire préparé en vue de cette émission et que donc je vais rendre l'antenne puisque le temps imparti à l'émission arrive à son terme, mes chers auditeurs, vous retrouverez Thierry Péri-Marty, car nous continuerons l'entretien, qui fera donc l'objet d'une deuxième partie, avec encore des lectures et des discussions relatives à votre travail, Thierry. C'était « D'assonances en dissonances », votre émission mensuelle consacrée à la poésie, réalisée par Béatrice Maché. Vous nous retrouverez avec Thierry Péri-Marty de nouveau, le mois prochain, deuxième jeudi, à 20h. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.